Re-bienvenue au Voyeur de vue, un podcast pour ceux qui sont éternellement devant un écran. Vos Voyeurs de vue cette semaine sont moi-même, Yannick Belleville.
Et moi, Alex Rose.
Alex, c'est un autre épisode de notre mini-série sur Ben Affleck,
oui.
Le Best of Ben. On est très content de vous amener ça. Cette semaine, on va vous parler de Pearl Harbor. La fois que Michael Bay a essayé d'être peut-être respectable ou plus prestigieux, peut-être prestigieux.
Ouais, ben, je dirais où est-ce qu'il essaie d'être James Cameron.
Oui, exactement. Essayer d'avoir la couronne de Big Jim. Mais avant, on va parler de quelques films qu'on a vus cette semaine.
Avant, Yannick, c'est ça. Juste pour dire, avant, là, on est rouillé un peu hein, de faire les Voyeurs de vue parce que j'ai réécouté des épisodes de quand j'étais au Voyeurs de vue il y a un an, mettons. Et avant, on faisait les nouvelles et les trailers de la semaine.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Puis là, il y a eu Cocaine Bear.
Oui.
Qui a quand même fait beaucoup jaser.
Oui.
Puis, on l'a regardé, on s'en est parlé quand on l'a regardé. Et qu'est-ce que tu penses de Cocaine Bear? Fait que juste pour dire, Cocaine Bear, c'est exactement ce que ça sonne. C'est un film d'Elizabeth Banks, réalisé par Elizabeth Banks, à propos d'un ours qui ingère beaucoup de cocaïne accidentellement et qui devient...
un monstre de slasher, un
c'est
peu.
C'est ça,
là.
Ouais. Puis c'est basé sur une histoire vraie où est-ce que forcément l'ours n'est pas devenu un monstre de slasher, je crois. Mais il y a vraiment un ours qui a ingéré de la cocaïne qui était comme tombé d'un avion ou quelque chose dans les années 80. Et là, donc là, ils ont fait un film et le trailer est sorti et ça a eu un effet un peu Snakes on a Plane-esque, je te dirais.
Ouais.
De par l'internet. Et qu'est-ce que t'as pensé de ça, du trailer de Cocaine Bear?
Je trouve que ça a l'air correct, mais je pense que le film... Ben, tu sais, correct, là, tu sais. Mais aussi, ce qu'on voit dans le trailer du film est très comme « Oh shit, l'ours ». Fait que c'est comme les aspects slasher épeurants du film. Et moi, j'ai l'impression que ces aspects-là dans le film vont être assez minuscules et que le reste va être assez comédie. Mm-hmm. Puis que les gens qui vont se pointer pensant voir le trailer vont peut-être être surpris.
C'est un peu le constat que je me fais aussi. Le film qui est démontré dans le trailer, pour moi, a l'air de la merde. Je trouve que ça a l'air pourri. Ça a l'air comme, tu sais, campy, self-aware de manière déplaisante.
Ouais.
De manière, justement, Snakes on a Plane ou... j'utilise toujours Deadpool comme exemple, mais tu sais, Deadpool, c'est pas vraiment ça, parce que Deadpool, il y a comme un second degré, là, tu sais, qui est pas vraiment... Mais, parce que moi, genre, quand j'ai lu le... que ça existait, puis j'ai vu qui joue dedans, tout ça. Il y a Ray Liotta qui joue dedans, puis d'autres gens. le gars qui fait des TikTok où il est fâché dans un Ikea, là.
Ouais.
Il joue dans ça.
Scott, son famille commence par S, malheureusement,
ouais,
je sais pas.
Stadins, on en fait dans
Ouais, quelque chose comme ça. Qui ressemble au policier principal dans The Batman. quand je prends un bout de The Batman ou quand je le réécoute, à chaque fois qu'il se pointe la moustache, je pense tout le temps que c'est lui, puis je sais que c'est pas lui. Là.
Fait que tu sais, quand j'ai vu ça, moi, dans ma tête, je voyais un peu comme un Cohen, un Fargo, là, tu sais, ce genre d'affaire-là, puis je voyais l'ours comme étant vraiment minime, tu sais, comme pratiquement absent, puis c'était une affaire de genre, il faut qu'on retrouve notre cocaïne, tu sais. Puis là, le trailer qui nous démontre que c'est vraiment comme, ça a l'air de Piranha 3D. En fait, ça serait ça, le niveau, là, que je dis, là. C'est comme une affaire un peu trop content d'être éclaté.
Ouais,
c'est ça. Fait, on va voir, là, tu sais, je veux dire, je peux pas chier sur le fait qu'il y a un film qui est pas basé sur des bonhommes qui sort au cinéma et que le monde a l'air excité, en plus. Mais,
t'sais... C'est Universal, en plus. Fait, ouais, Universal qui font leur part pour essayer de sortir plein d'affaires différentes à chaque année, là, tu sais.
C'est ça.
Comparé à d'autres studios. Là.
J'ai pas été bien convaincu par le trailer, mais, tu sais, j'ai encore un peu d'espoir, je te dirais. Et je veux aussi une affaire que je trouve gossant, c'est que dans le trailer, on voit du monde mourir qui sont des personnages principaux.
Ouais.
Qui est comme vraiment une affaire de trailer de film d'exploitation des années 70, là, tu sais, dans genre... Faut vraiment que le monde vienne voir ce film-là, fait qu'on n'a pas le choix de...
Ben, tu vois, moi, c'est ces affaires-là qui me font penser que, ça veut dire qu'il n'y a pas tant de carnage de Cocaine Bear dans ce film-là, fait que par conséquent, ils mettent le peu qu'ils ont dans le trailer pour faire penser que ça va être un film coco-banane comme ça. Mais que finalement... Ben, tu vois, l'idée que ça peut être Coen-esque, ça pourrait être cool, mais moi, je pense que ça va être juste plus... C'est comme une comédie, mais que justement pas...
Ouais. Ben, le ton aussi des performances des gens qu'on voit dans le trailer suggère quand même que c'est un peu... ça a plus l'air d'un film de Will Ferrell.
Ouais, ben, je pense à ça comme, tu sais... Justement, à l'affaire de, du puits à ours dans le zoo de San Diego qui est dans Anchorman, puis tout ça, c'est vrai. Le...
L'épisode où ce qu'il y a Homer se fait agresser par un panda.
Aussi. Mais, tu sais, il y a comme un... La comédie de studio wacky ne semble pas s'être mise encore de Anchorman.
Ouais.
Parce qu'on dirait comme que la seule track qui existait, c'était comme Adam Sandler qui peut, dans le fond, faire n'importe quelle affaire. Qui peut faire comme des comédies romantiques comme il peut faire des Owen. Mais sinon, on dirait que la seule place qui avait été comme... qui s'était permis d'être wacky pendant des années, c'était comme Anchorman puis Will Ferrell. Non, c'est Sandler puis Ferrell. Puis on dirait qu'il y a... Si tu veux quelque chose, justement, de folichon comme ça ou de plaisantin, c'est essayer d'être Will Ferrell, on dirait.
Ouais, puis il y a tout le temps cet aspect, genre... Je pense que j'ai déjà parlé de ça au show, d'ailleurs. L'idée de, tu sais, comme, il arrive de quoi, puis la joke, c'est que tu fais « Oh mon Dieu, l'ours est en train de manger ta main! Oh, c'est dégueulasse! » Tu sais, ce genre de narration, narrer qu'est-ce qui se passe.
Ouais.
Comme en disant, en surlignant à quel point c'est inhabituel. Ça, c'est une affaire de Will Ferrell, puis ça perdure encore, comme, constamment.
C'est vraiment... Tu sais, je me rappelle... Toutes les affectations comiques drôles sont appelées à être recyclées puis devenir genre du brillant ou du sprinkles humoristique pour du monde moins drôle, tu sais.
Ouais.
Ça arrive tout le temps comme, tu sais, justement, si on parle de trailer, tu sais, il y a eu récemment le trailer trailer officiel du film animé de Super Mario Bros. Qui est sorti.
Oui.
Puis, tu sais, visuellement, c'est très beau. Là, on voit, il y a plus des performances vocales intéressantes. Puis, OK, Chris Pratt ressemble, sonne plus comme un personnage comme Chris Pratt. Mais l'affaire, c'est que les jokey jokes que tu vois dans ce trailer-là, c'est... Ben, regarde, c'est Illumination qui font les minions, les minions, des affaires comme ça. Puis, il y a des bonnes blagues animées physiques dans ces films-là, mais des blagues animées physiques, ça se met mal dans un trailer parce qu'il faut que tu vois une action au complet.
C'est un payoff. Tu peux pas vraiment mettre ça.
Mais ce qu'il y a beaucoup dans les trailers, puisque ces films-là ont beaucoup aussi, c'est justement ce saupoudrage-là de demi-joke ou de demi-punch que je pense que c'est rendu un peu... Ça, c'est des affaires pour les adultes qui vont... adultes qui vont voir les films vont faire comme... Bon, ben... Le film de Mario Bros, en a aussi beaucoup comme ça. Puis quand je regardais ça, j'étais comme... Tu sais, engager d'autres writers d'humour pour...
Mais tu sais, l'affaire aussi que là, c'est que ça... Tu sais, je me souviens quand cet aspect-là, adulte... Mettons, on va dire, c'est arrivé autour de Shrek.
Ouais. T'sais. Comme Shrek qui, au départ... Je me rappelle, quand la première fois que j'ai vu Shrek, j'étais comme... Ah, OK, c'est comme un long... épisode des Simpsons à l'époque. Là. C'était comme du irrévérencieux des Simpsons qui était déjà comme devenu vieux, mais que là, que c'était dans un film animé pour enfants, le monde comme déchirait leur chemise.
Puis ça, je peux comprendre. T'sais, après ça, mettons, t'avais 10 ans quand Shrek est sorti, style. Fait que tes parents, ils en avaient, mettons, 30. Fait que tes parents, eux autres, c'était nouveau pour eux autres. T'sais, comme c'était un brand new world, là, quelque chose de différent. Mais là, ça fait 21 ans que Shrek est sorti. Donc, le monde qui avait 10 ans quand Shrek est sorti peuvent avoir des enfants de 10 ans maintenant. Puis c'est encore le même niveau de joke que quand toi, tu sais, ça devrait pas être comme ça. Il faut que les choses changent. Ça peut pas rester tout le temps pareil. Tu sais, comme, je sais que l'idée de « not your daddy's comic », tu sais, ça c'est mauvais, genre on veut pas ça nécessairement. Mais... c'est normal que les nouvelles affaires soient aliénantes pour les vieux.
Oui.
Sauf pas là. Apparemment, on va s'installer dans le même loop éternel de type de comédie.
Il va falloir qu'on attende 15-20 ans pour que des affaires drôles, absurdistes maintenant qu'on aime sur Internet soient dans des films. Puis là, ça va être dépassé déjà là.
Jokes de drill dans des...
des bonnes blagues de drill, des bonnes affaires comme non-contexte de... grenouille cartoon déprimée.
Ouais, des affaires genre, si E.T. existait pour vrai, je l'aurais tué avec un bat. Ça va être dans des cartes.
Exactement. On a hâte. Ben, on a hâte on en ce moment, puis rendu là, on va être vieux, on va être comme, motadine.
Mais je pense aussi, honnêtement, ça, ça a peut-être rapport aussi avec à quel point ça devient plus difficile de percer, mettons, en tant que writer.
Mm-hmm.
Dans la mesure où le monde qui écrive des films animés maintenant,
mm-hmm.
ont notre âge.
Ouais, mettons, ouais.
Tu sais, puis ça fait, c'est du monde que tu sais, ils font mettons de l'impro, c'est du monde de UCB, mettons que ça fait 20 ans qu'ils gossent après ça. Puis quand finalement on leur donne une opportunité, c'est genre, fais le film de Sonic, fais le film de whatever.
Ouais, t'sais. Ajoute des jokes par-dessus.
Fait pis... qu'eux aussi, ils existent dans un monde où ça a toujours été pareil. Puis finalement, quand t'as ton big break, tu veux pas commencer à faire qu'est-ce qui est pas attendu de toi, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que je pense que, je sais pas après ça, peut-être qu'il y a le monde qui a écrit Shrek ou tu sais. Était peut-être, je sais pas qui a écrit Shrek d'ailleurs.
Ben Shrek avait fait comme fameusement comme 15 writers. Ouais. Là, c'est une affaire qui a été réécrite puis réécrite en poche pleine.
Je dis pas que ce monde-là, c'était des jeunes, les jeunes Pete Davidson de leur époque, là, mais tu sais, quand même, j'ai l'impression qu'il y a comme un... T'sais, tout est plus long. C'est plus long d'avoir... Tu sais, quand je lis le vieux journal, je me rends compte souvent les motards à Montréal qui étaient comme importants puis qui se faisaient maintenant assassiner, whatever. Il y avait en dessous de 25 ans. Puis maintenant, un kid de 25 ans qui fait des crimes, il y en a pas. Même dans les gangs de rue qu'on dit qu'ils sont jeunes, tu sais, le monde qui sont comme qui se font tirer, qui sont dans les gangs de rue, ils ont rarement 19 ans. Tu sais, c'est rare.
Mm-hmm.
Fait que je pense, même si c'est difficile de devenir un criminel quand t'es jeune, ça va être difficile de devenir un writer qui fait des bonnes blagues.
C'est absolument. C'est, regarde, c'est ça la vraie réalité. C'est difficile à tous les niveaux pour ces affaires-là. Mais ouais, c'est ça. T'sais, comme, en tout cas, j'espère que... C'est drôle parce que, mettons, un dessin animé comme pour jeunes que j'ai écouté récemment, c'était... Ben, puis là, maintenant, il est vieux de maintenant 5 ans, mais j'avais écouté comme la nouvelle version de DuckTales,
mm-hmm.
dans laquelle il y a fréquemment comme, justement, des jokes. Puis c'était un show qui était même fait par du monde jeune. Fait que il y avait des jokes étranges, farfelus, qui n'étaient pas justement des esties de low-hanging fruit, là, le fruit aux branches la plus basse. Là. Puis je suis comme, mais non, esties, si eux autres, ils faisaient comme 20 épisodes par saison, pourquoi qu'il y a un gros... j'imagine qu'une saison de DuckTales, peut-être ça prend justement 2 ans, 3 ans, l'affaire peut-être moins qu'un film. Je suis comme, pourquoi que les vases ne se communiquent pas, là?
Ouais. J'ai vu un autre trailer récemment, puis j'étais comme, ouh, c'est des vieilles jokes, là, tu sais, comme de 2019. Mais tu sais, c'est normal, c'est long faire un film. Puis, in as much as il y a une monoculture, la monoculture change super vite.
Ouais.
Puis on s'en rend pas nécessairement compte, mais tu sais, comme l'autre fois, j'étais comme, ah, tu sais, genre, Harry Styles, c'est un petit jeune. Mais là, je suis comme, non, Harry Styles, il a comme 30 ans. Tu sais, dans ma tête, c'est un petit jeune, parce qu'il n'y a pas des révolutions culturelles comme il y avait avant, tu sais. Avant. En 5 ans, tu passais, mettons, de Nirvana à Limp Bizkit, maintenant. Puis là, maintenant, en 5 ans, tu passes d'un album de Harry Styles à un autre album de Harry Styles. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là sont en fait que tout va vite, mais tout va moins vite aussi. Mm-hmm. Fait que c'est pas bon pour l'humour, je pense, en général.
Non, c'est ça, ça se rafraîchit pas. Mais tu sais, je pense aussi, on s'éloigne, mais je pense que c'est peut-être pour ça que SNL perdure d'une certaine façon. Mm-hmm. Parce que c'est une affaire comme qui est tout de même écrite à chaque couple de semaines. Fait que ça peut... Ça va être rafraîchi.
Même quand c'est mauvais, ça. Tu sais, ça.
C'est au moins récent, tu sais.
Exact. Puis ça, tu sais, ça fâche le monde qui veut que les choses soient toujours comme ils ont toujours été. Mais, fait que, tu sais, même si celle-là, elle est pas, je dirais pas, à son paroxysme en ce moment, c'est une des seules affaires qui est comme ça, effectivement. Avec le late night aussi, mais, tu sais.
Ouais, aussi. En tout cas,
c'est ça, fait Cooking Bear.
Cooking Bear.
On va sûrement en parler un jour.
Ouais, ça ressemble à un film qu'on aurait une invitation pour puis qu'on va aller voir dans notre heure. Parlant de film que j'ai eu une invitation pour aller le voir, oui. Ça lundi, je peux pas en faire une critique. Je vais en faire une critique plus longue dans un épisode probablement la semaine prochaine. Mais je peux donner des impressions. J'ai vu le nouveau film de Damien Chazelle, Babylone.
Mm-hmm.
Puis il m'a dit que ça, c'est du gros cinéma. Ça, c'est. Sans vouloir en dire trop, tu sais, je pense qu'on a parlé dans un épisode récent, c'est qu'il y a des réalisateurs qui font des films qui sont comme « Oh shit, je pense que le cinéma n'existera plus bientôt.
Mm-hmm. »
Alors, je mets celle-là dans le tube à torpille tout de suite. Mais je l'aurais fait plus tard, mais là, je le mets dans le tube à torpille tout de suite, puis je le tire en crisse. Mm-hmm. Puis c'est un film de 3 heures de tout ça. Et j'ai hâte d'en parler davantage. Puis sinon, juste aussi une petite nouvelle dans l'affaire de Bonhomme, c'est que hier soir, ça a été annoncé que Wonder Woman 3 ne sera pas...
Oui, j'ai vu ça.
De la façon qu'il était supposé exister de Patty Jenkins, n'existera pas. Et selon les nouveaux architectes de DC au cinéma, James Gunn et Peter Safran sont partenaires de production, et les autres qui run DC maintenant. Fait que Wonder Woman 3, qui était comme une certitude,
ouais,
n'existera pas, du moins pas dans sa forme préconçue. Et il semblerait que ça va être la même chose pour Black Adam, mm-hmm, le supposé retour de Henry Cavill en Superman, qui serait revenu genre en caméo dans le film de Flash, que ça, on va le voir un jour.
Oui, je pense en mai ou mai-juin 2023.
Ouais, je pense que le film de Flash va ultimement fermer la porte sur toutes ces affaires-là. Mais le film de Shazam s'en vient encore.
Ouais.
Mais sinon, tu sais, c'est vraiment surprenant que c'est tout de même comme, tu sais, même si Wonder Woman 1984 n'a pas été aimé at large, moi j'étais sûr que tu sais, le 3 allait sortir et qu'elle allait être meilleure.
Ouais.
Bref, ça c'est une affaire qui est sortie hier soir, des remaniements de bonhomme.
Ouais, mais j'ai vu du monde dire, puis tu sais, ils ont pas tort, là, dans le sens que tu sais, comme Patty Jenkins, tu sais, Wonder Woman 84, c'était pas super bon, ça a été un hit quand même, surtout que c'est sorti, quand est-ce que c'est sorti?
C'est sorti comme à... Tu pouvais l'écouter à Noël si tu voulais, ouais, là, direct là.
Il n'y avait pas de cinéma d'ouvert ou très non. Peu, genre, tu sais, ça a été comme quand même un hit à ce niveau-là. Puis le monde disait, ben, tu sais, James Gunn, son Suicide Squad a fait moins d'argent que ça. Puis c'est lui qui a pris la décision de fermer Wonder Woman, ce qui est un peu, tu sais, effectivement, un peu problématique, mettons.
Ouais.
Mais en même temps, aussi, on peut pas dire, tu sais, à l'époque où il a fait Suicide Squad, il n'était pas un faiseur de décision, donc c'est pas.
Mm-hmm.
Pas la même affaire. Là,
c'est pas exactement la même chose, en
c'est
effet.
C'est pas exactement la même chose, mais c'est sûr que, tu sais, on a l'impression que Patty Jenkins est plus punie que les hommes qui font des films de super-héros pour DC, maintenant.
Oui, ben, tu sais, quand le premier Wonder Woman est sorti, tu m'aurais dit « Patty Jenkins devrait runner le reste de la patente ». J'aurais dit « Ben oui, ben, volontiers, la preuve dans le pudding, je suis partant ». Mais
ouais, parce que c'est vrai, parce que tu sais, genre, je pense que le premier Wonder Woman, c'est pour moi, c'est le meilleur film de DC, là.
Mm-hmm.
Puis peut-être le seul bon que j'ai personnellement. Mais tu sais, mais après ça, 84, tu sais, je pense que je sais pas, DC, c'est vraiment un esti de.
Mm-hmm.
Ça va pas bien, c'est un train wreck, puis je pense qu'ils sont en train d'essayer d'arranger ça, mais il va y avoir des choses qu'ils vont devoir couper là-dedans. C'est
pour... Ben, on est en train de le voir là, en ce moment. Fait que ça a sorti hier soir, ça l'a popé sur mon téléphone alors que je visionnais Kaido avec des amis.
Ah oui, nice.
Fait que, tu sais, des belles
c'était
surprises.
Combien, c'était comment cette fois de regarder Kaido? Pour ceux qui ne savent pas, le film de Michel Brûlé. Le dernier film de
Michel Brûlé. Ben, c'était... On dirait, avant, j'étais vraiment abasourdi par la folie qu'est Kaido. Là, à cette heure, j'étais capable de plus le regarder directement, de le regarder dans les yeux. Puis, j'étais vraiment comme... L'histoire fait juste commencer et arrêter constamment. Ça commence et ça arrête constamment pour que Michel Brûlé... Hey, savez-vous les Anglais, puis tout ça? Et c'était, ma foi, terrible. Ouais. Mais c'était... L'origami de Kaido se plie de façon différente à chaque fois.
Ouais. Moi, je voulais parler d'un film que j'ai regardé cette semaine, mm-hmm, qui était une bonne surprise, en fait. Un film auquel j'avais peu d'attentes, quand même. Et que j'ai visionné sur Tubi. Ça s'appelle The Quiet Earth, de 1985. Un film néo-zélandais de Jeff Murphy. Jeff Murphy, qui est probablement mieux... Ben, en fait, son plus gros credit, c'est qu'il était assistant réal sur les 3 films du Seigneur des Anneaux.
D'accord.
Mais... Il a quand même eu une carrière hollywoodienne. T'sais, c'est comme un des pionniers du cinéma néo-zélandais. Il a écrit un film qui s'appelle Goodbye Pork Pie,
mm-hmm,
qui est réalisé plutôt, qui est comme un peu un film de cascadeur, t'sais, de l'équivalent du Ozploitation, mais pour la Nouvelle-Zélande, dans le fond, dans les années 80. Puis ça, c'est, t'sais, je pense que dans les années 80, il a essentiellement mené l'industrie un peu à lui seul. Là, t'sais, fait. Puis The Quiet Earth a éventuellement mené à une carrière hollywoodienne où il a réalisé Under Siege 2 et Young Guns 2.
Oh!
Alors, Jeff Murphy,
Young Guns 2, même pas si peu.
Je sais pas, je l'ai pas vu. J'ai jamais vu aucun Young Guns.
Moi, je les ai vus quand j'étais jeune. Je les ai vus une couple de fois quand j'étais jeune. Puis
Free Jack aussi.
Oh, Free Jack de surcroît, Colin. Ouais. Fait que je les ai vus une couple de fois quand j'étais jeune. Puis récemment, j'ai vu comme le dernier 15 minutes. Parce que j'avais AMC pour écouter la fin de Better Call Saul. Puis avant Better Call Saul, j'écoutais tout le temps comme une fin de film. Mm-hmm. Puis une fois, c'était
Young Guns
2. Young Guns 2. Puis que j'étais comme, OK, let's go.
Fait que l'histoire de Quiet Earth, vous allez quand même peut-être trouver ça familier. Mm-hmm. C'est l'histoire d'un scientifique qui s'appelle Zach Robson, qui est joué par Bruno Lawrence, qui se réveille un matin et se rend compte qu'il n'y a plus personne sur la Terre et qu'il est peut-être le dernier homme sur la Terre.
Mm-hmm.
Mais tout le monde est disparu. C'est pas juste... c'est comme un film de zombies, dans le fond, mais il n'y a plus personne. Fait qu'il se promène, tu sais, puis il devient fou un peu rapidement, là, tu sais, parce qu'il est seul. Fait que, tu sais, il n'y a pas comme... pas grand-chose à faire, tu sais, puis c'est
ouais.
Puis, ça, en fait, ça ressemble énormément à... C'est quoi le show avec Will Forte, The Last Man on Earth?
Last Man on Earth, oui.
Ça ressemble énormément à ça dans sa prémisse. Ça ressemble aussi à un film des années 50 que j'avais regardé cet été, en fait, qui s'appelle The World, The Flesh and the Devil avec Harry Belafonte. C'est des films, tu sais, où est-ce que, bon, quelqu'un se réveille, c'est la fin du monde, et rapidement, on se rend compte qu'ils sont pas vraiment seuls,
mm-hmm.
mais, tu sais, close enough. Mm-hmm. Il y a très peu de gens sur la Terre. Puis The Squatters, ce que j'ai trouvé comme intéressant... Parce que c'est une prémisse super familière, tu sais, c'est le genre d'affaire probablement que c'était moins familier à l'époque, mais maintenant c'est vraiment difficile de regarder ça puis de faire ah ouais, tu sais, comme c'est original, tu sais, t'as tout déjà vu ces affaires-là. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est très relax comme film post-apocalyptique. Tu sais, quand il y a pas de zombies, il y a pas de menaces extérieures à part la survie, tu sais. Je trouve ça intéressant, justement, parce qu'on est trop habitué à ce que les choses se corsent. Ah, finalement, il n'y a rien. Ah, OK, finalement, on est possédé. Finalement, il y a ci, finalement, il y a ça. Dans ça, il y a comme... Il tâche de trouver une explication scientifique, mettons. Fait que ce qu'il se rend compte, c'est que rapidement, c'est qu'on dirait que le soleil se rapproche. Il fait de plus en plus chaud. Et donc, whatever qui est arrivé, tu sais, ils pourront pas vivre éternellement sur la Terre comme elle est là. Fait que... C'est un film, spoiler alert un peu, il finit par avoir trois personnages, comme dans The World of Flesh and the Devil. Puis c'est intéressant à ce niveau-là aussi, parce que je pense que c'est comme, esthétiquement, l'esthétique, tu sais, de la Nouvelle-Zélande, qui est comme, ça a déjà l'air un peu post-apocalyptique, tu sais.
Ouais, ouais, on a accès à des déserts, puis des rochers.
T'as tous les possibles les écosystèmes, tu sais, en Nouvelle-Zélande, puis aussi... Surtout les années 80, je pense que maintenant, c'est moins comme ça. C'est un peu vide. Tu sais, il n'y a pas tant de gratte-ciel puis de densité urbaine, tout ça, mais c'est quand même des villes. Tu sais, fait que c'est... En tout cas, j'ai trouvé ça... C'est super... T'sais, c'est downer, évidemment, mais c'est quand même aussi très léger, ludique, le fun, en même temps, d'être, tu sais, downer, sans être justement un film d'action ou un film de thriller. Ou... Je trouve que ce que ça manie, c'est un genre qu'on a vu 100 000 fois, de façon quand même intéressante, ce qui est difficile à faire, surtout justement parce que c'est dans un monde post-film de zombies où est-ce que toutes les permutations possibles, imaginables de post-apocalyptique peuvent être, ont déjà été démontrées.
Mm-hmm.
J'ai vraiment trouvé ça quand même très entertaining. Mais c'est aussi un peu rushant dans le sens où que les problèmes semblent réalistes. Il y a beaucoup de gestion d'horaire, puis gestion d'inventaire, puis d'affaires de même, tu sais. Que souvent, les films où justement il y a une menace extérieure, on parle pas de ça.
Ouais.
Parce que t'as pas le temps, tu sais. Mais là, c'est vraiment un peu, comme j'ai écrit dans Marvel Letterboxd, leur fin du monde, c'est vraiment comme décider pour un groupe où est-ce qu'on va aller souper. C'est une chose que je déteste, tu sais, quand t'es avec plusieurs personnes. Ah, où est-ce qu'on va manger? Puis là, personne n'est d'accord, puis ça. C'est un peu ça qui arrive, mais tu sais, à propos de toutes les décisions, parce que tout est, tu sais, tout s'ouvre à toi, tout est possible. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est ça. The Quiet Earth. Qui est un film qui a joué au FFM en 1985, que j'ai constaté également.
Ah.
Si vous allez sur Letterboxd, j'ai fait des listes pour toutes les FFM.
Une ressource.
Alors, c'est ça, c'est l'année. C'est intéressant aussi. Cette année-là, il y avait un hommage à l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Puis dans je vais dire Cinébule, là, ou une des revues. Richard Martineau écrivait pour une des revues de cinéma. Mm-hmm. On va dire Cinébule. Et il était vraiment fâché contre l'Australie. Il trouvait que l'Australie puis la Nouvelle-Zélande prenait trop de place dans la programmation du FFM cette année-là, puis que c'était, tout était overrated, incluant The Quiet Earth. Donc, regardez ce film, c'est un move contre Richard Martineau.
Ouais, ouais.
Aussi minime cela peut-il être, peut-il sembler.
Mais aussi minime que vous pouvez le faire, vous devriez.
Allez le regarder parce que ça va peut-être le faire chier un peu.
Ouais. D'ailleurs, tu me dis qu'il était sur Tubi, n'est-ce pas? Notre plateforme préférée. La plateforme gratuite Tubi.
Oui.
Qui.
Il y a cesse de faire des petits. Il y en a des nouveaux, là, en plus. Hein. Mm-hmm. Il y a Pluto TV qui est arrivé cette semaine au Canada.
Ah oui, c'est arrivé au Canada?
Ouais, ouais, ouais. Il y a très peu de films, il y a beaucoup de TV dessus.
Oui, je vais checker parce que ça fait longtemps que je sais que ça existe aux États-Unis. Je sais que je pense que c'est juste aux États-Unis, mais qu'Amazon en a une maintenant qui s'appelle Freeview ou quelque chose comme ça. Ouais. Ils ont Amazon, sur Prime, on peut l'écouter sous vêtement Prime, mais il y a une télésérie sur la jeunesse de Tegan and Sarah qu'ils ont écrit qui ça, je pense que c'est comme un de leurs shows forts pour lancer lancer Freeview aux États-Unis, mais qui est sur Prime normal ici au Canada. Je pense que c'est pas encore développé ici. Mm-hmm. Mais non, je serais curieux justement de voir plutôt TV.
Plex aussi. Plex qui est un système de serveur que tu partages, mais qui a des films.
Oui, oui.
Par contre, les annonces sont longues en esti. Là, des fois, tu as 5 minutes d'annonce dans un film.
C'est un petit peu tout croche. Il y a des chaînes live sur Plex. Puis une de ces chaînes-là est Doctor Who classique.
Okay.
Fait que quand j'ai découvert, j'ai fait oh Chris, enfin une façon. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'entièreté de Doctor Who survivante de 1963 à 1989. Puis ils la passent au travers constamment. Okay. Puis, fait que c'est. Mettons que j'ai goût d'écouter Tom Baker, là.
Faut que t'attendes longtemps.
Faut que j'attende soit une couple de jours, puis si c'est pas au milieu de la nuit, si je veux écouter comme le début de sa run. Mais tu sais, c'est. Puis aussi, justement, par exemple, il y a comme des pauses durant ces affaires-là, puis des fois, les pauses comme escamotent le cliffhanger ou le début d'un autre épisode. Ouais. Fait que c'est pas exact.
Mais tu vois, tu bises sur la tête là-dessus. J'ai écouté quelque chose sur CTV cette semaine. Puis CTV, il y a des pubs aussi, là. Mais le problème avec CTV, c'est que la pub, tu sais, les pubs sont timées à des fade-out ou des changements de scène, mais ils arrivent tout le temps comme 3 secondes avant. Fait que quand tu reviens de la pause, tu revois 3 secondes, là ça fade-out, là ça revient. Tu sais, c'est comme, ils sont pas timés comme du monde, mais je veux dire, c'est pas grave, là, c'est des films gratis, là. Comment d'autre que je vais regarder Letters to Juliet avec Amanda Seyfried si c'est pas sur CTV?
Ben, c'est ça. Regarde, moi, quand j'ai voulu, pendant le mois de octobre, quand j'ai voulu que écouter... Pas à travers la run de Resident Evil, la seule place qui avait les 4 premiers films avec Mila Jovovich, c'était sur CTV, puis c'est là que je les ai tous écoutés.
CTV sont incroyables là-dessus. Quand ils ont une série, ils ont toute la série. Peu importe c'est quoi la merde. Fait que là, ils ont toutes les Anaconda. Tu sais, Anaconda avec Jennifer Lopez, il y a plein de suites en straight to DVD de merde. Mm-hmm. Ils sont tous sur CTV. Mais tu sais, personne n'a demandé ça, mais ils sont là.
Ben tu vois.
Mais moi, j'ai ça. Quand je vois ça, je fais oh Chris. Ça veut dire qu'il faut que je regarde toutes les Anacondas.
Ils sont toutes là.
C'est ça.
Tu vois, avec Resident Evil, je pense qu'il y en a comme deux autres de Mila qui sont pas là. Mais il y a comme quatre autres qui sont comme de l'animation CGI louche.
Ouais.
Mais ils s'appellent Resident Evil, fait qu'ils sont là. Fait que je suis comme, regarde, m'a pas demandé à la personne qui fait les achats médias de CTV d'aller chercher si loin que ça. Il y a comme 8 Resident Evil sur la plateforme. Il a dit ça va être ça. Je dois respecter son choix. Je ne vais pas le critiquer.
Parlant de plateforme, il y en a qui ont regardé un film tous les deux cette semaine.
Oui, oui, absolument.
Qui est nouvellement disponible sur une plateforme. On a regardé. Ben, c'est la semaine dernière que je parlais de Nez Rouge. Ça fait juste une semaine.
Ça fait juste une semaine, mais c'est que tu nous as mentionné justement que si vous êtes sur Crave et que vous mettez Crave en français, vous allez avoir comme tout un éventail de sélections québécoises sur la plateforme.
Et si tu vas dans Film québécois et tu scrolles tout en bas, jusqu'au bas complètement, de la dernière sélection, dans tout en bas complètement, et Liste noire de Jean-Marc Vallée.
Tu vas trouver une tuile une balance qui est aussi une brassière. Et c'est là que tu sais que tu es arrivé à Liste noire. Le poster de Liste noire, c'est-tu comme le meilleur puis le pire poster?
Ben, c'est extrêmement mémorable. Moi, je m'en souviens.
Mm-hmm.
beaucoup, là, tu sais, très bien au club vidéo. Puis je sais pas si tous les clubs vidéo avaient ça, mais mon club vidéo avait un petit sticker rose qui était écrit érotisme dedans. Puis ils mettaient ça sur les covers, mais essentiellement juste sur les covers de thrillers érotiques cheap. Tu sais, comme pas, tu sais, comme. Je sais pas qu'est-ce qui aurait été un film Damage de Louis Malle, mettons un film des années 90 où il y a des scènes de sexe explicites. C'était pas écrit érotisme. Érotisme, le petit sticker rond, c'était vraiment pour des affaires scabreux et cheap.
Mm-hmm.
Et il y avait ça sur liste noire. Fait que là, moi, j'étais comme ouh.
Ouh là là, qu'est-ce qui se passe derrière ce soutien-gorge-là, balance.
Ça. Et comme j'ai mentionné également, moi j'avais 8 ans quand c'est sorti. Et comme j'ai mentionné dans mon review Letterboxd, c'était un des premiers trailers qu'il y avait quand on avait le poste de Indigo. Mm-hmm. Quand ils ont introduit le poste d'Indigo, comme en 96, un des premiers trailers dans la rotation, c'était Liste Noire. Fait, j'ai vraiment vu souvent le trailer et ça me semblait vraiment inatteignablement mature quand j'étais jeune. T'sais, ça avait tellement, c'était tellement comme rushant à quel point ça s'adressait pas à moi. T'sais, que j'ai toujours eu un petit... une curiosité envers le salon, mais pas assez pour le louer une fois que j'avais l'âge de le louer, tu sais. Mais assez pour là maintenant scroller au bas du menu de le salon et de le regarder. Et je pense que justement c'est intéressant parce que Michel Onéry qui fait notre chanson thème.
Oui.
J'y disais, tu sais, je t'arrête d'écouter Liste Noire, puis là, il dit, ah oui, t'as des cas sans parler de ça. Puis là, Michel, pour ceux qui savent pas, c'est tout le monde qui écoute, vient d'avoir un enfant.
Mm-hmm.
Fait que je pense qu'il regarde pas tant de films que ça. Mais il a regardé Liste Noire parce qu'il l'a vu passer sur Crave. Il a fait, hey, c'est que ça fait là, ça. Fait que tu vois, je pense que pour une génération, tu sais, génération maintenant un peu plus jeune que toi, là,
ouais.
qui ont mon âge, on est comme, ouh, je me souviens de ça. Ouh, tu sais, on en a parlé sur Twitter, il y a du monde qui sont sortis qui ont fait, ouh, je me souviens de ça.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça, c'est un film qui, dont le. La réputation n'est pas à refaire, I guess. Mais en même temps, personne ne se souvient de l'avoir vu. C'est un film aucunement mémorable, mais dont tout le monde se souvient.
Ben c'est ça. Partiellement contre son poster, parce que tu sais, j'ai l'impression qu'on n'a pas souvent des posters avec un graphisme aussi marquant dans nos affaires au Québec. Puis aussi, ben c'est là aussi de sa réputation. C'est comme c'est le seul thriller érotique québécois à ce qu'on sache. Mais tout de moins en salle. Parce que, tu sais, je parlais avec une de mes amies, je me suis fait parler de Letterboxd, qui est américaine. Puis elle, c'est comme quand elle a vu ça popper sur mon Instagram, elle est comme, il y a juste eu un... Vous avez juste eu un thriller québécois, un thriller érotique, tu sais, comment ça?
Ouais.
Puis là, je disais, ben tu sais, on a eu tout de même de la télévision assez saucy au Québec, fait que peut-être qu'on pensait pas qu'on avait besoin que le monde allait se déplacer tant que ça pour l'en faire en salle, tu sais. J'avais de la manière à me l'expliquer, mais c'était la première affaire qui m'est venue en tête.
Il y a plusieurs affaires, en fait. C'est que, un, l'argent, il faut des subventions pour faire des films au Québec. Il faut passer à travers les institutions, dont j'ai peut-être déjà fait partie.
D'une telle institution, bien sûr.
Et à cette époque-là, dans les années 90, tu sais, l'idée, c'était plus de faire du cinéma de qualité, tu sais, comme pas faire du cinéma commercial, dans le fond.
Mm-hmm.
Ça a changé avec l'enveloppe à performance, tous ces trucs-là, plus tard. Mais je pense que, tu sais, c'était pas bien vu, mettons. Puis je pense que les subventions allaient pas à ça. Puis l'autre affaire, c'est, tu sais, aussi... Jean-Marc Vallée venait de la pub puis du vidéoclip. Fait que tu sais, il y avait une génération plus jeune qui crachait moins sur le cinéma commercial, mettons. Tu sais, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas jamais eu du cinéma commercial, Jean-Claude Laure, par exemple. Tu sais, il y en a eu, mais sauf que c'était pas nécessairement vu comme la chose à faire, I guess. Il y a eu d'autres, tu sais, il y a eu La Conciergerie, mettons, qui est aussi un thriller, mais pas un thriller érotique. Mais tu sais, un thriller... de facture classique années 90. Ces choses-là existent, mais purement, tu sais, comme qui joue sur le sexe, au moins dans sa publicité plus que dans son contenu, je pense.
Ouais, ouais.
C'est vrai que le salon, c'est quasiment le seul, tu sais. Fait que. Peux-tu nous résumer, Yannick?
Ouais, ben, on comme. Regarde, Liste Noire met en vedette Michel Côté, Robert Gravel, Geneviève Brouillette, Jean-Louis Roux.
Aubert Palacio.
Louis-Georges Girard.
Denis Mercure
lui-même. pas Denis Mercure, de l'an 50. Oui, une jeune Lucie Laurier. Étienne de Passier est là, les oui, amis. Et n'oublions pas Sylvie Bourque, qui était bien sûr la belle Linda Hubert dans l'an 50.
Qu'est-ce que je suis mêlé? Raymond Cloutier, pas Raymond Bouchard.
Ouais, Raymond Cloutier qui est là quand même. Raymond Cloutier. Je veux dire, le casting dans ce film-là est tout de même très bon parce que Raymond Cloutier en policier malcommode, c'est ça le fait, là. Ça marche en sacrament, là. Puis, tu sais, t'as aussi Paul Dion qui est comme le seul nerveux de la gang. Une belle collection de faces grises qui méprisent les femmes puis qui ont peur d'être pognées dans un engrenage de chantage.
Mac Templeton lui-même aussi est présent.
Oui, il arrive avec une belle petite queue de cheval alors qu'il va menacer Michel Côté. Ce qui se passe justement dans Blacklist, Liste Noire, c'est que on commence avec justement un avocat qui se fait pogner par la police alors qu'il utilise les services d'une travailleuse du sexe.
C'est pas un juge.
Un juge, oui. Qui utilise les services d'une travailleuse du sexe qui est jouée par Geneviève Brouillette, qui joue Gabriel Anger. Et puis là, il est pogné dans un engrenage légal. En même temps, Michel Côté, Jacques Savard, devient un juge lui aussi. Et il doit présider sur ce cas. Et ce qu'on apprend à travers ça, c'est que lui et tous ses autres amis juges sont comme nerveux de l'arrestation de Gabrielle Anger parce qu'elle aurait elle les a eues toutes comme clients. Mm-hmm. Et lorsque elle a peur pour sa sécurité un peu ou elle ne veut pas aller en prison, elle glisse une liste à Jacques Savard devant les yeux de tout le monde, sa liste noire que c'est tous ses clients qui s'avèrent à être tous ses chums à lui. Et toutes ces faces grises-là ont peur. Je dis faces grises, mais comme tu l'as bien mentionné, Louis-Georges Girard était plus jeune que moi alors qu'il tournait ce film-là. Louis-Georges Girard qui a une énergie impeccable de mon oncle.
Effectivement.
Qui dit « Hey, beau petit cul après ça. »
Il a l'air plus mon oncle. Tu sais, je suis allé regarder après ça parce que je suis allé voir quel âge que Louis-Georges Girard. Puis, il a l'air moins mon oncle maintenant, qui est plus vieux.
Il y avait un pic mon oncle qui a atteint à cette époque-là, était...
C'était impressionnant quand même d'atteindre ton pic mon oncle à comme 40 ans. Là. Puis après ça, ça redescend, tu sais, c'est... Peu de gens peuvent clamer ce...
Peu de gens peuvent, indeed. Et fait que là, lorsque Gabrielle sort de prison, elle se voit menacée, sa vie menacée, mais les gens sur sa liste noire commencent à mourir et les gens menacent aussi Jacques Savard, le personnage de Michel Côté, alors que lui, il vit une vie tranquille, un peu rangée, qui a l'air d'avoir une sexualité... En fait, je suis curieux de parler de la sexualité justement dans ce film-là parce que je trouve l'aspect érotique de ce thriller érotique est très peu érotique en réalité. Puis ça devient comme... Alors que ses amis commencent à mourir, là, il essaie d'arriver comme au fond de l'affaire. Qu'est-ce qui est arrivé? Qui tue ces gens-là? Est-ce que Gabrielle est en danger elle aussi? Va-t-il pouvoir sauver sa réputation? Puis tout ça, c'est vraiment comme le nœud, l'intrigue de Liste Noire. T'sais, moi, j'ai trouvé ça... Visuellement, je trouve que des fois, ça lookait pas pire. Puis d'autres fois, c'était vraiment non remarquable.
Ouais.
Mais plus que ça va, ce que je me souviens le plus du film maintenant, quelques jours après, c'est à quel point que c'est ça, c'est un thriller érotique aussi légal, mais que la notion légale et de criminalité dans ce monde-là ou puis dans ce film-là semble pas exister. Ouais. Genre, quand les juges parlent entre eux autres de corruption ou que Gabriel Anger est comme « Si vous saviez les clients que j'ai, tous des grands hommes, entre guillemets, j'ai l'impression que l'univers moral du film, c'est quelqu'un qui apprend que la corruption existe pour la première fois en lisant le journal de Montréal.
Ouais, ouais, ouais.
Ben là, ça n'a pas d'allure à être traîné dans la boue. Puis comme, les amis, vous êtes tous des juges. Fait que ouais, vous savez c'est quoi comme le monde criminel. T'sais, vous avez vu 1000 personnes coupables slider sur un verdict.
Là, ouais.
plus soft pour pouvoir comme le mettre en prison pareil, mais pas trop longtemps. T'sais. Vous savez toutes que ces bagouilles-là existent, puis ce monde grisâtre moral-là existe, mais là-dedans, ils sont tous comme « Ben là, ça n'a pas d'allure! » À un moment
donné, ils sont en train de souper là, ou de dîner, whatever.
Il y a au moins comme 4 scènes quasiment de tout ça.
Ouais,
là.
Ils mangent du steak, là, puis je sais pas trop. Là, puis, ouais, il y a un steak super saignant à un moment donné, c'est ça?
Ouais. Une scène est ouverte avec un steak exact, super saignant. Là, ouais.
Mais tu sais, fait que dans cette scène-là, ils sont tous en train de essentiellement un par un admettre qu'ils ont couché avec elle, tu sais. Puis chacun est comme étonné que les autres aient couché avec elle. En plus, ils sont comme... Ah, oh, faudrait pas que ça sorte. Ah, oh, tu sais, comme si ils ont jamais pensé, avant que toute leur chum couche avec elle, qu'il aurait pu se faire pogner. Tandis que je pense que la chose la plus réaliste, ça serait qu'ils se diraient « Ah, ben, je vais pas me faire pogner parce que je suis intouchable, je suis un fucking juge blanc, tu sais. » Ça serait beaucoup plus intéressant comme nuance, plutôt que... Parce que, tu sais... Ce qui est un peu weird, puis ce qui arrive un peu avec le twist de la fin, c'est que le film a quand même... est quand même du bord des juges, un peu.
Ouais, ouais!
Pis, ça, c'est weird, là. Ça, c'est indéfensible.
Oui, oui, c'est on parle pas, bien sûr, ici, de la télésérie à TVA. Oui, mais non, c'est ça, ça a pas d'allure. Comme, tout le long, moi, en l'écoutant, puis là, c'est il y a une intrigue avec un policier qui tente de protéger Gabriel Anger, qui un policier qui est, ma foi, vraiment pas charismatique.
Ouais, un acteur que j'ai jamais vu avant, puis qui a comme plus rien fait.
Tu sais, je cherche son nom.
André Champagne, je pense.
André Champagne, t'as peu. Mais bref, tu sais, il est vraiment pas... Il est même pas dans le top du cast, mais bref, quand je regardais le film...
André Champagne, là, okay. L'enquêteur Michel Gauthier.
OK. C'est ça. Puis Michel Gauthier, c'est... Quand je regardais le film, je suis comme... Me semble que, traditionnellement, dans un film noir, c'est lui le héros.
Ouais.
C'est lui, comme, qui tombe en amour avec Gabrielle, mais que ça peut pas arriver parce qu'elle est une travailleuse du sexe, puis là, lui, il y a peut-être un problème avec ça.
Ouais.
Puis que, tu sais, elle est essentiellement une femme fatale, mais là, lui...
Ou ben non, elle l'utilise pour avoir ce qu'elle a besoin.
Ouais, c'est ça, elle l'utilise ou il veut être son chevalier, puis ça l'amène à sa perte.
Mm-hmm.
Puis ça serait la structure traditionnelle de exact. Tout ça. Puis il peut pas se battre contre ce milieu-là parce que c'est une conspiration de juge.
Ouais.
Mais c'est pas ça. Ouais. Tu sais, c'est là, t'es dans la conspiration de juge, comme, mais Chris, faut qu'on s'en sorte. Puis
c'est même pas clair, c'est qui le personnage principal, en fond? Tu sais, de qui? Tu sais, le personnage principal, c'est pas nécessairement la personne pour qui on a le plus d'affinité, tu sais. Le personnage principal peut être une mauvaise personne.
Oui.
Mais c'est la personne pour qui on a le plus d'insight, tu sais, comme la personne... Mm-hmm. Puis je sais pas c'est qui dans la liste noire. C'est-tu Michel Côté ou Geneviève Rioux?
Ben, on la voit pas assez pour que ça soit elle, mais c'est elle qui fait le plus de moves pour essayer de se sortir de des situations...
Mais c'est Michel Côté qu'on voit chez eux tout le temps.
Ouais, avec sa fille, puis...
Là, on va spoiler la fin de...
Regarde, là, attention, si vous voulez pas écouter, si vous voulez pas être spoilé de l'Liste Noire, là, on spoil maintenant. Là.
Parce que, doublement étrange, le personnage qu'on a vu tout le long s'avère à être le tueur.
Ouais.
Fait que là, ça, c'est fucking weird. Ça arrive jamais, parce que ça marche... Tu sais, ça se fait pas. Tu peux pas montrer l'intimité, puis, tu sais, quasiment les pensées... personnel, interne du personnage. Puis après ça, il dit, ah, puis il y a tout ce pan-là de son existence que vous connaissez pas jusqu'à maintenant.
T'sais. Ouais.
C'est bizarre. C'est culotté pour un film du niveau de Liste Noire.
Ouais, parce que, tu sais, il y a tout l'aspect comme que il semblait être le seul de ses compères qui est droit.
Mm-hmm.
Puis quand j'écoutais le film au début, je suis comme, ah, me semble qu'habituellement, t'sais, moi, je voyais comme Michel Côté, c'était comme le héros. Parce que c'est lui qu'on voyait le plus, puis comme, ok, il est moralement droit, mais il me semble qu'il donne aucune autre qualité plaisante à suivre pour un personnage principal. Puis là, je suis comme, ok, mais ultimement, le fait qu'il était droit parce qu'il était comme intensément obsédé par la loi, puis il voulait pas se faire entacher, puis ça l'a fait de lui un tueur, je suis comme, ok, si je plisse des yeux, ça peut comme exister ensemble, mais dans le film en tant que tel, ça marche pas vraiment.
Puis toute la dernière scène où il se révèle être le tueur, puis là, soudainement, il est en mode Coco Bongo complètement. Michel,
ouais.
Là, c'est comme, hein, ok, comme il n'y a rien qui m'a préparé à ça.
Ouais, toute sa minutie. pas sa minutie, mais la façon qu'il se faisait pas pogner avant, là, il se fait... il est comme...
ouais, c'est ça, comme un... c'est un elf on a shelf, là, soudainement.
J'ai l'impression que quand c'était le seul thriller érotique québécois, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un désir de scénariste de faire comme... oh, j'attends pas pour mettre cette grosse twist-là dans un film. Que le film le supporte ou non, va la mettre dedans.
C'est écrit par Sylvain Guy, là, qui après ça a écrit plusieurs affaires pour Pods. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est pas comme un deux de pique nécessairement. Mais moi, je pense que ce qui est surtout... ce qui saute aux yeux, c'est que c'est vraiment genre... c'est de l'opportunisme, ce film-là. C'est genre, faut faire un thriller érotique parce que ça va faire de l'argent.
Ouais.
Puis that's it. Ça, c'est la seule consigne que n'importe qui a. C'est faire un film comme les Américains. Tu sais, ça ressemble beaucoup à Basic Instinct, mettons. Mais avec rien qui rend ces choses-là intéressantes.
Non, non, non.
Vraiment juste, tu sais, comme c'est comme du devoir. Un devoir. Tu sais, quand j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé, puis de là. Puis, un fait intéressant, Sylvain Guy a réalisé le remake en anglais.
The List of Noir. Ah oui? Ça existe? Je ne savais pas que ça existe.
The List.
The
réalisé
List.
Réalisé par Sylvain Guy avec Ryan O'Neill dans le rôle de Michel Côté et Matt Chin Amick dans le rôle de Jean-Louis Rioux.
Ah.
Tourné à Montréal, tu sais, je pense que c'est assez cheap, c'est un straight to DVD essentiellement. Mais il y a eu un remake américain réalisé par. Parce que c'est ça. Tu le vois aussi que le but de List of Noir, c'est vraiment de propulser Jean-Marc Vallée puis de faire de lui comme un réalisateur commercial.
Ouais.
Ce qui est un peu arrivé dans le sens qu'il a fait deux films américains après ça. Un film de Mario Van Peebles, la suite de Posse.
Ouais, ouais.
Puis il a fait un film qui s'appelle Loser Love, qui a l'air aussi d'être un thriller érotique. Que ça, je connais pas ça. Là. Puis tu sais, ça a pas fonctionné parce que c'est ça. C'est un peu, tu sais. Il y a quelque chose de très années 90, puis ça, on rentrera là-dedans dans un autre épisode, là, parce que c'est comme. C'est complexe, mais. De l'industrie québécoise puis des coproductions, tout ce qui se faisait dans les années 90, que je pense que ça l'ambition était pas très loin, ça ambitionnait pas beaucoup. Faire des films américains, c'était vraiment un peu tout comme des films communistes noirs, comme ces tentatives là c'était un peu comme des films avec pas tant de saveur, qui font juste comme cocher une liste. Puis Liste Noire en est un bon exemple quand même aussi, t'sais. Ça feel beaucoup comme 4,5, même si ça a l'air de Basic Instinct.
Ouais, ouais, c'est du monde avec des suits, puis là, la pièce ombragée avec quelques petites lames de lumière.
C'est ça, les lumières néon. Tu sais, toutes les lumières chez Geneviève Rioux sont rouge flash, là, comme dans une chambre noire.
Ouais, c'est rouge d'un bord, puis c'est bleu de l'autre.
C'est ça. Parce que elle doit, tu sais, je peux bien comprendre, c'est qu'elle file pas, là. Si elle vit toute sa vie dans ce genre d'éclairage de lunettes 3D, là, c'est sûr, c'est... c'est épouvantable. Fait que c'est ça, Liste Noire, si vous êtes curieux, c'est vraiment pas long. Ça, je vais y donner. Ça passe super vite.
Eh oui.
Même si c'est tout le milieu, c'est juste du monde en dessous qui se chicane avec
qui
rien chicane, qui se passe.
Qui chicane, qui mange des steaks. qui mange des steaks à une table vraiment trop haute, qui ont comme l'air de des enfants.
Mais écoute, si comme nous, vous étiez curieux parce que vous vous souvenez du poster et ou du trailer sur Indigo, ben il est maintenant sur Crave.
Ouais.
J'ai essayé de faire ça maintenant toutes les semaines, regarder une vieille affaire Keb sur.
C'est une bonne idée, je pense qu'on devrait prendre cette habitude-là.
Moi, je voudrais vraiment regarder French Immersion. C'est le film de la seule réalisation du producteur Kevin Turney, qui est à propos des anglophones qui s'en vont faire un cours d'immersion française, en Gaspésie ou une affaire de même. Là. Fait que tu sais, c'est comme Fish Out of Water, oh là là, tu sais, puis t'as des acteurs canadiens anglais, t'as Robert Charlebois.
Quelle année, ça?
2011.
Ah, ouais.
Puis je sais que c'est un film comme tout quand on entend parler, c'est vraiment le monde sont comme... vous avez pas idée à quel point c'est mauvais. Tu sais, ça a comme passé en dessous du radar. Puis, c'est ça. Fait qu'il faudrait... j'aimerais ça le regarder, mais en même temps, je pense qu'il faut que je peux pas être... ma blonde, elle a dit non plusieurs fois. Je la blâme pas, mais je pense qu'il faut la regarder avec quelqu'un d'autre. Ça peut pas être...
Ouais, ouais, regarde, ben on essaiera de faire ça un moment donné justement pour les voyeurs de vue. Fait que là, on va arriver à notre Ben de la oui. semaine, notre épisode 10 pour un Best of Ben. On a vu, comme on a mentionné tantôt, on a vu Pearl Harbor.
Pearl Harbor,
qui était la première fois que je visionnais ce grand film de Michael Bay. C'est sa deuxième production avec Ben Affleck. Il a donné ses dents de movie star dans, ouais, dans Armageddon. Mais là, il dit, c'est temps que tu souris et que tu rendes hommage à cette grande page d'histoire américaine. On suit vraiment direct au début, on suit Ralph McCauley, qui est joué par Ben Affleck, et Danny Walker, qui est joué par Josh Hartnett, qui sont deux enfants passionnés par l'aviation, puis qui tout le temps, un tire l'autre du trouble quand ils se mettent dans des embourbes. Et on suit justement ces deux jeunes hommes-là alors qu'ils deviennent des pilotes de l'aviation américaine. Dans un bout de film, un segment qui est très Top Gun-esque, mais avec des avions qui n'ont pas de réacteurs, qui ne sont pas propulsés par des jets de flammes. Ils rencontrent éventuellement un groupe de jeunes infirmières qui sont aussi engagées pour l'armée, qui sont tu sais, il y a Jennifer Garner est dans le mix,
Jimmy King
aussi, et il y a bien sûr Kate Beckinsale qui joue Evelyn Johnson, et le bon Ben tombe en amour avec elle, mais il est appelé à aller au front en Angleterre pour aider les Anglais.
Mais il se porte volontaire, il n'est pas appelé. C'est lui qui décide d'aller. Parce que les Américains ne font pas partie de la guerre encore.
Ils ne font pas partie là encore, puis je pense qu'il y avait comme une affaire parce que. Il y avait comme une loi de non-intervention de guerre dans ce temps-là, Roosevelt venait juste de signer ça, genre...
Ouais, je dirais que, tu sais, comme les affaires spécifiques historiques sont pas vraiment mises à l'avant, à l'avant. Pearl Harbor. Fait que tu sais, il y a des choses qui font qui prennent des choses qui arrivent pour des raisons historiques, mais sauf que ça, faut juste que tu assumes que tu devrais le savoir, parce que c'est pas le film, te le dira pas.
Exactement. Bref, Rafe s'en va à la guerre. Il disparaît pendant un bout. Il est laissé. Le monde pense qu'il est mort. Alors Danny essaie de réconforter Evelyn. Puis là, ils tombent en amour. Ils sont en relation. Rafe revient dans leur vie alors que les deux ils travaillent à Hawaï.
Oui, trois jours avant l'attaque de Pearl Harbor.
Trois jours avant ça. Trois jours.
Je veux dire, eux ils le savent pas, mais même nous autres on le sait parce qu'ils mettent la date.
Ouais.
Ils sont en train de nous dire là, oh, regarde comment c'est un mauvais timing. Là. Ouais. C'est pas le temps que ça arrive, ça.
Non, c'est pas le temps que ça arrive. Puis ça, c'est comme la première heure du film de trois heures qui conclut. Et lorsque ce trio-là est déchiré par les événements, l'attaque de Pearl Harbor arrive. Fait que là, ce triangle-là, avec tous leurs personnages assemblés, dont dans le camp de Danny Walker, un jeune Michael Shannon qui flash.
Goose.
qui Goose qui flash.
Non, pas Goose, Goose.
Goose. Ouais, G-O-Z, on dirait. Ouais.
Goose.
qui est vraiment sick. Puis là, il y a l'attaque qui est spectaculaire. Et à travers ça, il y a bien sûr du carnage. On voit ce qui arrive à plusieurs fronts de l'attaque. Et on se concentre aussi un peu justement sur les infirmières qui doivent essayer de sauver le plus de monde possible. Et on a ces deux amis-là qui se sortent du trouble et qui se ressoudent à travers cette attaque-là. Mm-hmm. Et une fois qu'ils ont réussi à repousser un peu de l'ennemi. L'ennemi s'en va et on suit nos héros dans un entraînement pour une dernière mission qui sera le début de la riposte des États-Unis envers le Japon. Puis c'est trois heures de Pearl Harbor, tout ça.
Exact. Tantôt j'ai mentionné que c'était très James Cameron parce qu'effectivement, je te dirais Pearl Harbor, avant la toute fin, c'est pas un film de guerre.
Non.
C'est un film de désastre. Tu sais, comme l'attaque sur Pearl Harbor, c'est pas un combat, c'est pas une bataille. Ils se font décalisser. fait que ça a pas les rites traditionnels d'un film de guerre dans la mesure où, tu sais, bon, chacun prend son rôle, tu sais, dans la guerre parce qu'ils se font attaquer par surprise s'ils attendent pas. Donc, toute l'attaque sur Pearl Harbor qui dure à peu près 45 minutes dans le film. Alors, ressemble beaucoup à Titanic parce que c'est quelque chose qui pète. Du monde qui veulent se sauver. T'sais, plus que champ contre champ de gens qui tirent, mettons.
Ouais. C'est impossible. Là. Ouais, c'est pas... Comme tu viens de dire, c'est pas comme... Ça prend du temps avant qu'éventuellement t'aies quelqu'un qui mette la main sur une arme puis qui charge l'arme puis qui fait « OK, là, c'est là que je tire. »
Puis c'est pas d'ailleurs Cuba Gooding Jr.
Ouais, c'est Cuba Gooding Jr. À qui ça arrive. Puis, mais ça prend du temps avant que ça arrive. Mm-hmm. Le reste du temps, c'est sauve-toi d'une explosion, ouais, sauve-toi de ce morceau de métal-là qui croule sous l'eau. Justement, les infirmières qui doivent gérer les blessés dans les hôpitaux. Ça, c'est vraiment... J'ai trouvé que ça, c'est vraiment intéressant. Mm-hmm. C'est un 3 heures qui s'est comme tout de même bien regardé, ma grande surprise.
Ouais.
Puis c'est juste que le fil que t'as au travers, c'est comme justement, il essaie d'être James Cameron,
mm-hmm.
mais... Même à ses personnages le plus minces, t'es du bord des personnages de James Cameron, puis tu veux voir ce qui leur arrive. Il a même été capable de faire ça avec Sam Worthington.
Mm-hmm.
Fait que, Big Jim, il a la twist.
Ouais.
Puis, Michael Bay n'a pas cette twist-là.
Non, effectivement. Tu sais, je pense que les éléments séparés de Pearl Harbor sont pas vraiment bons. Mais le tout est meilleur que ça devrait être.
Mm.
Dans le sens que, tu sais, là, je t'assis puis je pense, OK, Ben Affleck et Kate Beckinsale ont pas tant de chimie ensemble. Josh Hartnett et Ben Affleck ont pas tant de chimie ensemble. Tu sais, les relations au centre de toutes les émotions qu'on devrait vivre sont pas si bonnes que ça. Mais, tu sais, le film est tellement classiciste là, dans son approche. T'sais, il veut tellement être comme Titanic, être un gros bloc. Tu sais, il veut tellement tout cocher.
Ouais.
Que ça finit par fonctionner par la force des choses, t'sais, par la conviction ultime de Michael Bay.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, c'est ça, quand je te dis, Ben Affleck et Josh Hartnett, qui sont supposés être les meilleurs amis du monde, ils ont pas l'air de s'aimer tant que ça. T'sais, ils ont pas une camaraderie, la camaraderie que Ben a avec Matt Damon, justement, dans Good Will Hunting.
Exactement, ouais.
Puis, tu sais, ça, c'est un peu de la faute des comédiens, mais pas vraiment, tu sais, parce que je pense que. T'sais, on a parlé de Ben Affleck à cette époque. On a parlé d'Armageddon il y a comme un an. Ben Affleck est correct dans ces films-là. Il est pas incroyable. Puis je pense que c'est pas tant de sa faute. C'est plus qu'on ne demande pas beaucoup de lui. Puis je pense qu'avec le temps, il a vieilli, il a pris comme du galon. Puis t'sais, comme il est devenu plus intéressant à l'écran que le genre de pretty boy qui était supposé être.
Ouais.
Ici, il y a genre des mèches blondes. Mm-hmm. Puis, Josh Hartnett, c'est le même principe. Josh Hartnett, malheureusement, lui, a beaucoup plus souffert du fait qu'il était vu comme un pretty boy puis, tu sais, jouer dans des films qui en demandaient peu. Parce que je pense que Josh Hartnett est un bon comédien. Surtout maintenant, il fait des affaires vraiment plus intéressantes qu'il faisait quand il était jeune. Mais il en demande tellement peu de lui, tu sais. Comme, il faut tellement juste qu'il soit comme une annonce de cigarette que... C'est difficile vraiment de le percevoir comme une personne.
Ouais, à travers son plissage d'yeux cool.
Mm-hmm.
C'est difficile d'avoir plus d'émotions que ça.
Ben parce que c'est un peu ça, tu sais, l'affaire avec Josh Hartnett, c'est non seulement. Ben, tu sais, je sais pas si beau c'est le mot que j'utiliserais, mais tu sais, il est extrêmement. C'est un... Tu le remarques, tu sais.
Ouais.
Comme Josh Hartnett, plus que d'autres mondes plus beaux, là, mettons, au cinéma. Si tu le verrais dans la rue, je pense que tu ferais « Oh shit, c'est qui ce dude-là? » Tu sais, comme il y a une face qui détonne. Puis ça a été super mal utilisé dans la première partie de sa carrière parce que le monde, il voyait « Ah, il est beau comme un gars qui fait des annonces de bobettes. » Mais mm-hmm. C'est pas vraiment ça la qualité qu'il a, tu sais. C'est intéressant. Quand il a fait... c'est quoi ce film-là? Suspect numéro 1. C'est un film québécois, là, avec Antoine Olivier. Puis là, c'est un film de... Suspect number one, je pense.
Ça. Ouais, ouais, je, ça dit vraiment.
Il joue le journaliste Victor Malarek dedans. Mm-hmm. J'ai fait une entrevue avec lui, tu sais, pour ça. Puis j'avais comme dit un peu, tu sais, comme tu t'ennuies, tu sais, comment tu te mettons, au fait que t'étais comme un heartthrob avant, puis là, maintenant, tu sais, tu fais des films beaucoup plus pointus, beaucoup plus weird, tu sais, il fait des films genre au Japon, puis en Turquie, tu sais, puis il a comme une carrière vraiment différente. Puis il était comme, tu sais, il dit, j'aime bien mieux faire ce que je fais là que je faisais quand j'étais jeune, tu sais. Comme je pourrais pas faire ce que je fais là si j'avais pas fait ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Donc,
ouais, ouais.
Fait que c'est intéressant. Je trouve c'est un acteur intéressant qui a été vraiment mal utilisé. Puis là, il commence à avoir un peu un Hartnett Renaissance. Là. Il joue dans Wrath of Man, mm-hmm. de Guy Ritchie, puis il joue dans le prochain, que je sais pas quand est-ce que ça sort, ça fait longtemps que je vois
Opération des Ruse,
C'est un nom en français, là. Piège de cristal.
Opération de fortune, ouais. Ruse de fortune, opération quelque chose, là. Ouais, mais ouais, parce que les méchants là-dedans sont ukrainiens, puis là, ça l'a comme repoussé le film en entier. En disant, oh, crime, c'est pas le temps de sortir un film où les Ukrainiens sont méchants, ça ne marchera pas.
Bref, c'est ça. Mais
je pense que c'est Ruse, deux points, opération de fortune.
Ouais.
Je pense que c'est ça.
Ouais. Ça ressemble à... Ouais, effectivement, je te crois. Mais tu sais, puis je vois, il y avait comme un rôle de soutien dans Wrath of Man. Il y a comme... Tu sais, il revient un peu intéressant. Mais à cette époque-là, tu sais, il y a rien... Il y a pas beaucoup... Il y a beaucoup, beaucoup de bons comédiens dans Pearl Harbor, puis personne ne fait de quoi d'intéressant. Il leur donne rien d'intéressant à faire. Fait que c'est difficile, même si, tu sais, c'est dans les règles de l'art, puis tu sais, il fait tout correct, tu sais. Mm-hmm. C'est difficile de vraiment avoir une émotion puissante pour aucun des trois personnages principaux, je pense.
Sérieux, moi, le seul moment où j'ai vraiment ressenti de l'émotion, c'était tous les segments, genre, des infirmières mm-hmm. qui étaient comme overwhelmed par la situation, mm-hmm. puis de tous les gens blessés. Puis là, tu sais, ils utilisent leur rouge à lèvres pour marquer comme, OK, le. Lui, il n'a pas besoin de morphine. Lui, il a besoin de morphine. C'est comme des affaires comme ça. Puis, tu sais, une image comme puissamment comme iconique Americana d'utiliser des bouteilles de coke pour des dons de sang puis des affaires comme ça. J'étais comme, ah, tu sais, un film de juste ça serait probablement comme super intéressant parce que c'est une affaire que tu penses pas nécessairement quand tu penses aux situations de guerre. Mm-hmm. Fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis, tu sais, Kate Beckinsale aussi est comme un genre de femme prototypique de Michael Bay. C'est comme elle a une beauté statuesque avec les cheveux foncés comme ça. Là, c'est comme. T'es un Léonie dans Bad Boys, elle a l'air de ça. Mm-hmm. Megan Fox, elle essentiellement avait l'air de ça. C'est vraiment son genre de casting qu'il aime dans ses films. Fait que, mais pour se pencher sur Ben. Je trouve que les fois où ce qui marche mieux, c'est justement quand il revient de la guerre un peu, puis que là, il se sent lésé par son ami. Mm-hmm. Fait que choqué, triste, comme il y a un pli intéressant. Là. Mm-hmm. C'est là qu'il marche mieux parce que il est devenu meilleur ou plus intéressant en se faisant donner des affaires plus offbeat, je veux dire, parce que il a l'air d'un leading man, mais ce qui est intéressant, c'est que quand il se fait donner comme une coche ou un bleu d'en face qui joue contre ça, puis là, c'est là que ça marche bien, parce qu'il est pas, malgré l'apparence, il peut pas jouer le leading man traditionnel.
Non,
là.
C'est ça, puis t'as un peu, comme on a dit quand on a parlé de Best of Ben la dernière fois, tu sais, il y a comme une tristesse inhérente à Ben Affleck, peu importe si son personnage est triste ou pas. Et ça, c'est difficile dans Pearl Harbor. Au début, quand il est supposé être heureux, puis il est supposé être en amour, puis tout va bien, il a l'air triste quand même.
Ouais. Puis... Il y a, des fois, quand il y a des affaires de « je mange, je pars demain », là, il y a soudainement plus un pouls. Ouais. Mais s'il est pas triste, c'est...
Tu sais, il y a comme un triangle amoureux complexe. Il y a des affaires qu'on n'a pas dit, là, comme qui viennent un peu envenimer la patente aussi. Mais c'est difficile de pas les voir comme autre chose que des pions un peu pour ce que Michael Bay veut vraiment faire, c'est-à-dire faire péter des choses, tu sais. J'irais pas jusqu'à dire que c'est comme To The Wonder. Essentiellement, j'ai l'impression que Terrence Malick et Michael Bay utilisent Ben Affleck un peu de la même manière dans ces deux films-là, tu sais. Mm-hmm. Comme... un symbole plus qu'une personne. T'sais, il représente de quoi, puis c'est difficile de vraiment sortir. Là.
Ouais, c'est... Avec Armageddon, Michael Bay a pu construire Ben en genre de symbole de ça, mm-hmm. comme un héros col bleu qui devient un astronaute. C'est comme... C'est très comme héros américain.
Ouais.
Puis là, il essaie de faire comme une autre itération de tout ça.
Ben
avec
ouais,
ça,
surtout, puis tu sais, Pearl Harbor est extrêmement genre l'Amérique, fuck yeah, fuck tout. Tout est.
Ouais, ben.
Cool, c'est qu'on est hot, l'Amérique.
Ouais, ben, tu sais.
Surtout
t'sais,
à la fin.
Ouais, ben, tu sais, un film comme ça, tu sais, c'est sûr que ça va être de même, là. Mais c'est là qu'il est à son paroxysme de cinématographie de pub de Super Bowl.
Ouais,
là.
Ouais, ouais, absolument.
Il y a toujours eu ça. Mm-hmm. Il y a des scènes de Transformers que tu vois, les juste qui sont juste en mode véhicule, puis qu'ils descendent ouais, ouais. la route pour se rendre quelque part, puis ça a l'air d'une annonce de char. Là. Les cordes à linge avec ouais. le linge flottant, puis les enfants qui jouent dans le champ. Puis ouais. Il y a 25 pubs de Super Bowl dans ce film-là.
Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est intéressant aussi de penser, tu sais, moi je l'avais pas vu ce film-là parce que comme, tu sais, j'avais 15 ans, 14-15 ans quand c'est sorti, puis je commençais à me penser cinéphile, puis ça avait été mal reçu quand même par la critique relativement parlant. Et moi je voyais ça, tu sais, c'était vraiment démontré comme Michael Bay, c'est l'exemple d'un mauvais réalisateur. Tu sais, c'est ça un film qui est de la merde. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est ça, c'est venu dans la foulée de, il y avait, tu sais, Titanic, mais il y avait aussi Saving Private Ryan, il y avait Thin Red Line,
ouais.
Il y avait beaucoup de films de grands réalisateurs, des grands à grand déploiement qui avaient été super bien reçus. Puis c'est vrai que, tu sais, contextuellement, si tu regardes Pearl Harbor comparé à ça, c'est comme, c'est pas tout à fait ça, tu sais. Mm-hmm. Mais en l'écoutant, tu sais, 20 ans plus tard, j'étais quand même diverti, tu sais. Je sais que c'est un film à propos de quelque chose d'horrible, même parce qu'il y a plein de monde sont morts. Ça devrait pas être divertissant.
Ouais.
Fait que c'est peut-être ça le vrai fondamental de Pearl Harbor, c'est quand même, tu sais, comme divertissant, puis c'est fait pour être pop, puis c'est fait pour être, tu sais, parler au plus de gens possible. Ce qui est pas une motivation incroyable, mettons, considérant
le sujet.
Le sujet. Mm-hmm. Mais pour ce que c'est, tu sais, de la genre de propagande, de cinéma, de whatever. Je trouvais ça quand même bien fait. Puis c'est pas vrai que Michael Bay, c'est pas un bon réalisateur.
Non, absolument pas.
Mais moi, je pense qu'il y a vraiment des mauvais instincts. C'est ça le problème. Tu sais, c'est... Il y a beaucoup de ces petits shots de la caméra qui tombent. Tu sais, qui... Je déteste ce shot-là. Il a fait dans tous les films. Tu sais, c'est comme la caméra...
Qui suit la bombe qui tombe.
Ouais, là. Qui suit la bombe qui tombe, ou qui plonge, là, tu sais, comme... Il y a ça dans son film de Benghazi aussi, là, mais avec une photo du personnage principal en feu, je sais pas trop. Là.
Ouh là là! Je n'ai pas toujours vu les 13 heures, les soldats secrets de Benghazi.
C'est pas... mais j'ai pas tant de souvenirs de ça. Puis aussi, une affaire qui me saute vraiment aux yeux dans ça, c'est qu'il est vraiment pas bon avec les personnages. Tu sais, fait que le moins de personnages qu'il y a dans le film, le mieux c'est... Ambulance, c'est bien parce qu'il y a pas vraiment beaucoup de personnages, tu sais.
Puis ça peut surfer aussi sur juste... le charisme de ces acteurs-là.
Exact.
Puis qui...
Tandis que là, tu sais, je dirais, comme je dis, il y a plein de bons acteurs, mais, mettons, Cuba Gooding Jr. joue un personnage qui sert comme à rien, tu sais, qui est comme... Il est là pour qu'il y ait un personnage noir dans le film, je pense.
Ouais, puis c'est quelqu'un qui a existé pour de vrai, ouais. Fait qu'en fait, comme, ah, OK, ben,
le seul,
aussi bien.
Le seul personnage, à part Roosevelt, là, tu sais, le seul personnage qui a existé, à la fin, il y a un petit genre, ah, ça, c'était Cuba Gooding Jr., voici ce qui est arrivé pour lui dans la vie, tu sais. Mm-hmm. Mais son personnage, c'est beaucoup, là, des raccourcis. Ah, tu sais, je reconnais cet acteur-là, c'est un acteur connu, donc il est important. On le voit pas pendant vraiment longtemps. Là, tu sais, Tom Sizemore aussi, le personnage de Tom Sizemore.
Ouais.
Qu'il est pas là pendant quasiment 2 heures. Puis la manière, il revient, puis il devient important. T'sais. Fait que ça, ces affaires-là, c'est mal. Je comprends, puis il fait ça avec Armageddon, puis il fait ça avec The Rock, puis il fait. Ben, ça, c'est peut-être aussi même Bruckheimer, Connor, c'est ça. À défaut d'avoir des bons personnages, tu mets des bons acteurs, mm-hmm. puis tu assumes que genre le fait que les personnes. Le public les reconnaît, ça va faire la job de pas définir le personnage.
Ouais.
Ce que je trouve. Ça fonctionne mieux dans certains films que dans Pearl Harbor.
Ouais.
Puis aussi, t'as John Voight qui joue Roosevelt avec tout qui a de la potée d'en face. Hein.
Il y a de la potée dans, dans le coup que j'ai qui m'a vraiment comme sauté d'en face. J'ai comme, ça, si ce n'est pas son coup, je le vois.
C'était une grosse année de potée pour John Voight aussi qui fait Howard Cosell dans Ali de Michael Mann aussi avec plein de potée d'en face. Tu sais, ces scènes-là aussi, ça, je pense que peut-être les pires scènes du film, c'est les scènes politiques. Tu sais, les scènes...
Oui, parce que Michael, il aime les troupes, mais il aime pas vraiment le gouvernement. Là. Fait qu'il y a beaucoup de... On pensait que ça allait arriver ou on s'est pas forcé pour trouver que ça allait arriver. Là, ouais. Là, comme... c'est moins...
C'est faute, gang de...
Ouais, c'est moins souligné que de dans les autres films, mais ouais. C'est très... Là, vos taxes payent pour ça. Arc!
Puis tu sais, t'as quelques scènes avec les Japonais, là, l'armée japonaise.
Oui.
Qui font juste dire des affaires, genre, que c'est sûr qu'ils n'ont pas dit. Tu sais, comme, ah, félicitations, ça a fonctionné. Oui, mais idéalement, on ne devrait pas faire la guerre du tout.
Ouais.
Ou genre, à un moment donné, il dit, j'ai peur que tout ce qu'on a fait, c'est réveiller un géant qui dort. Puis jamais le Japon. Le Japon, ils sont genre super comme... C'est horrible de devoir faire la guerre. Mais je pense pas que c'est ça qui se passait, tu sais.
Non, ça c'est... un petit peu de révision historique, peut-être.
Ouais, puis c'est... Pas même, je te dirais, un peu raciste, là. C'est un peu comme... Ah, tu sais, les... The Proud Japanese, qui sont comme... Tu sais, parce qu'il veut... Ben, c'est pas raciste, mais c'est comme... Parce que lui, il dit, bon, il faut qu'on aille un peu quand même la perspective des Japonais. Puis les Japonais, ils voulaient pas nous attaquer. Tu sais, parce que maintenant, on a des bonnes relations avec les Japonais. Fait que, tu sais, c'est un peu.
C'est toute l'empereur. C'est toute la faute de l'empereur. Puis.
C'est un peu whack. Puis, tu sais, puis on voit pas. Tu sais, quand dans la troisième partie, quand après ça, ils vont attaquer le Japon, tu vois aucun casualty du Japon. Tu sais, c'est juste des maisons qui explosent, puis des. Pas des maisons, mais tu sais, comme des usines, mm-hmm. des affaires où apparemment, il n'y a personne. Nous autres, quand on a bombardé le Japon, on n'a pas tué personne. Tu sais, c'est faux. Tu sais, comme. La fin devient super comme. Tu sais, c'est ça, le patriotisme qui fait pas de sens. Mais, quand même, tu sais, j'ai trouvé ça. Je l'ai regardé comme samedi après-midi, puis j'étais mm-hmm. comme, c'est un bon film de samedi après-midi. Ça prend toute l'après-midi, fin noir pendant que t'as fini, mais.
Ouais.
Tu sais, ce genre d'aspect old school, aventure un peu, genre, ça fonctionne, même si je trouve que c'est un peu colon.
Ouais.
Ça fonctionne indéniablement, tu sais. Fait que... Puis tu sais, je dis pas après ça comme, mettons, on avait vu 1917, tu sais.
Mm-hmm.
Ou ce que là, ça, c'est comme ça a l'air d'un jeu vidéo, puis c'est la guerre. C'est pas vraiment mieux, tu sais. Je sais pas, entre 1917 puis Pearl Harbor, je sais pas lequel qui a le moins de classe, là, mettons.
Ben, tu sais, je trouve que c'est... Les deux sont comme deux raids visuels bien corrects.
Ouais.
Puis que je pense qu'à moins que tu capotes, t'es écoutes une fois,
mm-hmm.
t'as vu des belles affaires, et si tu veux vraiment savoir des trucs sur ces conflits-là, faudrait que t'ailles acheter un livre qui en parle, parce que là, t'as pas eu grand-chose.
Non, effectivement.
Mais c'est ça, j'étais juste comme... Je suis content que ça ait coché comme un autre Michael Bay que j'avais pas vu, puis un autre Ben que j'avais pas vu.
Mm-hmm.
Puis c'est vrai, tu sais, j'ai donné comme un bon 3 étoiles, là, tu sais, un 3 étoiles respectable sur Letterboxd, ça, c'était bien correct, là.
Gentleman 6.
Un Gentleman 6, oui. Le 6 d'un Gentleman.
Une autre affaire, que moi, je me souviens de ça, là, quand il y avait des films... historique, mettons, un peu plus pop comme ça à l'époque, mm-hmm. le monde disait ben, c'est irresponsable parce que le monde va penser que c'est ça qui est vraiment arrivé. T'sais, ça va remplacer l'histoire. Puis les jeunes vont... Parce que c'était... Mm-hmm. moi, j'étais au secondaire quand c'est sorti, fait que c'était vraiment un film pour les jeunes. Les jeunes vont aller voir ça puis ils vont penser que c'est
le
ça.
Le MTV Generation!
C'est ça. Puis là, je regarde ça maintenant puis je suis comme, honnêtement, c'est pas si pire. Les choses s'en sont tellement détériorées que... Cette affaire-là, extrêmement patriotique, qui coupe les coins ronds, ça me semble quand même pas pire comparé à d'autres affaires, tu sais.
Ouais, c'est à une époque où, surtout aux États-Unis, il y a du monde qui ont des postes qui sont comme « L'Holocauste, pas sûr!
» Ouais, c'est ça.
Ça, c'est essentiellement un documentaire de Ken Burns. Là, ouais, ouais. C'est du Ken Burns shit, puis que c'est un document de faits.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Puis, tu sais, comme Roche dans la pyramide qui est Ben, honnêtement, tu sais, même si c'est un de ses films les plus populaires, là, tu sais, de ses succès mm-hmm. populaires, je trouve que ça on découvre pas grand-chose sur lui en tant que comédien dans ce film-là. Tu sais, comme, je pense que les acteurs dans ce film-là sont essentiellement un outil autant qu'un tank ou un avion ou whatever. Tu sais, tout est un peu... Michael Bay, c'est beaucoup genre, regarde-moi faire exploser mes jouets. Tu sais, puis ses jouets, des fois, c'est Ben Affleck. Tu sais.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est pas une... ça l'ouvre pas la porte tant que ça. Mais tu sais, j'ai ça. J'ai tout même apprécié ça à ce niveau-là. Alors, je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus, mon cher. En attendant, on aimerait ça... si vous nous écoutez, vous êtes dans la région montréalaise, on peut officiellement dire que nous ferons un ciné-quiz de Noël pour le cinéma moderne une fois de plus. Alors, on vous donne rendez-vous le 21, mercredi le 21 décembre. On va être là, moi-même, toi, Alex, ainsi que Mathieu Poirier. On va animer un quiz de Noël. On a vraiment hâte. Vous pouvez gagner des prix qui sont en rapport au cinéma moderne, des cartes cadeaux, des trucs du genre, des drinks. Venez nous voir, ça va être vraiment le fun. Alors que l'épisode est sorti, vous devriez pouvoir trouver des places et vous inscrire à l'avance sur le event Facebook organisé par le cinéma moderne. Oui, c'est sûr.
Cinéma moderne n'étant pas énorme, il faut réserver les places.
Oui, c'est ça, parce que c'est tout de même une petite place. On a eu beaucoup de fun la dernière fois, alors soyez des nôtres. Sinon aussi, vous pouvez me suivre à ThinkBezel sur Twitter, sur Instagram, sur Letterboxd, et j'ai aussi une infolettre qui s'appelle Cartoonist Robuste au yannickbelzile.substack.com pendant le temps des fêtes, elle va sortir aux deux semaines, mais absolument c'est à la semaine. Alors venez y lire des reviews de d'autres films que j'ai vus, des dessins, des trucs de pop culture et des trucs du genre. Et toi, Alex, on te trouve où?
Moi, je suis Alex Rose sur Letterboxd, puis Alex Rose tout ensemble avec deux petites barres à la fin sur Twitter. J'utilise plus vraiment Twitter, ni Instagram, ni quoi que ce soit. J'ai disparu de la map, mais vous pouvez quand même aller me suivre si vous voulez voir. Letterboxd, c'est là que je suis le plus actif.
Ouais, ouais, ouais.
Puis j'ai pas vraiment recommencé ma vie publique. Fait que c'est ça.
Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés, mais n'oubliez pas, en attendant, allez voir des vues.
Yeah.